Ah, l'adolescence, un âge difficile.
Assez fréquent chez les préadolescents. Elle en a tous les symptômes. Hyperactivité, saut d'humeur...
Écoute, je suis occupée à profiter de mon adolescence, alors fiche-moi la paix et fais la même chose.
Bah, oui, mais parfois on change à l'adolescence.
Les ados, ça se lève pas tôt, normalement.
Il y a tout du monde merveilleux des adolescentes.
C'est un miracle. Un adolescent qui dit non à la drogue et dit oui à l'instruction, c'est un miracle.
So, may we start?
Et maintenant, les ateliers radiophoniques des Canal B.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Canal B.
Nous sommes les élèves de 4e A du collège Sainte-Joséphine Bakita à Rennes.
Avec nos professeurs de français et d'histoire, Madame Elaoudi et Monsieur Desjardins.
Nous avons travaillé à un projet autour de l'esclavage.
Nous avons étudié l'acte d'affranchissement d'un esclave, Jean Gratien.
Nous sommes allés à Nantes visiter le mémorial de l'abolition de l'esclavage.
Et le château des Ducs de Bretagne pour voir l'exposition La traite atlantique et l'esclavage.
Nous avons effectué des recherches sur l'esclavage.
Le commerce triangulaire, le code noir.
Et aujourd'hui, on vous raconte tout ça dans notre émission de radio.
Tout à l'heure, vous entendrez l'autre partie de notre classe.
Elle a travaillé sur le système judiciaire au 19e siècle, justice et injustice.
Bonne écoute à toutes et à tous.
Nous, c'est Léna et Muhammad. Dans le cadre de notre projet de classe avec M. Desjardins et Mme Elaoudi, nous avons visité le mémorial de l'abolition de l'esclavage et le château des Ducs de Bretagne à Nantes.
C'était un moment touchant, triste, mais aussi intéressant, car on a découvert que beaucoup de personnes se sont battues contre l'esclavage. Le mémorial de l'abolition de l'esclavage est situé au bord de la Loire, à Nantes. Il y avait des escaliers qui mènent au sous-sol du musée. L'intérieur est plutôt petit. À l'entrée, il y a des cartes gravées sur les murs qui montrent les territoires où il y a eu de l'esclavage et le nombre de bateaux qui ont traversé l'Atlantique.
Juste à côté des cartes, il y a les dates de l'abolition de l'esclavage de chaque nation mises sous forme de frises chronologiques.
Au château des Ducs de Bretagne, on a vu un schéma de bateaux et les trois produits qui ont fait la fortune de Nantes avant le commerce triangulaire, le blé, le vin et les tissus. On a vu des tableaux où des gens riches étaient peints en train de donner du sucre à des chiens. Le sucre vient de la culture de la canne à sucre, cultivé par les esclaves. C'est à ce prix que vous mangez du sucre. Ça, c'est ce qui est écrit dans Candide de Voltaire. On a appris d'un captif, c'est-à-dire un esclave, qu'il coûtait 400 livres, mais cela dépendait de son origine.
En visitant l'exposition « La traite atlantique et l'esclavage », j'ai vu les objets que l'on échangeait contre les esclaves. C'était bizarre. J'ai aussi appris qu'il y a eu des milliers de personnalités qui étaient contre l'esclavage et qui ont écrit des textes à destination des ports où était pratiquée la traite négrière, comme le Havre, Bordeaux ou bien Nantes.
Maëlys, Théo et Jordan vont d'ailleurs à présent vous parler de ce fameux commerce triangulaire.
Bonjour, donc nous sommes Maëlys,
Théo
et Jordan.
Savez-vous que le terme de commerce transatlantique, que l'on emploie de plus en plus aujourd'hui, est un élément de langage ? Savez-vous qu'est-ce que le commerce transatlantique ? Eh bien, c'est l'autre nom du commerce triangulaire, d'où nous allons vous parler aujourd'hui.
Le commerce triangulaire, appelé par ailleurs commerce transatlantique ou traite négrière, débuta au XVIe siècle et prit fin au XIXe siècle, 1848 pour être précis. Il concerne l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Les esclaves, vus comme une simple marchandise, étaient vendus contre des tissus appelés l'indienne. À l'époque, les pays européens partaient en bateau avec des tissus direction le continent africain où ils les échangeaient contre des esclaves. Il embarquait ses esclaves venus de différents pays d'Afrique pour aller en Amérique. De là, une fois leurs esclaves vendus, ils repartaient vers l'Europe avec, dans les cales de leurs navires, des marchandises comme le cacao, la canne à sucre, le café, le rhum.
Maintenant, nous allons vous parler des conditions de vie des esclaves pendant la traversée de l'Atlantique et dans les plantations. Tout d'abord, chaque esclave est considéré comme une marchandise et non comme un être humain, et il est bon que pour exploiter. On ne se souciait donc pas de ces conditions de vie. Ils étaient tous entassés dans les cales les uns sur les autres. Certains mouraient étouffés, d'autres se donnaient la mort pour éviter de se faire exploiter. C'était ignoble. Cela a été dicté par des lois françaises dont le groupe suivant va vous parler.
Bonjour, nous sommes Swan, Tijani, Mirach et Andrea. En cours d'histoire, nous avons découvert le Code Noir.
C'est un ensemble de lois et de punitions écrit par Colbert en 1185. Il concernait les esclaves, régissait leur vie et garantissait le peu de droits qu'ils avaient. Le droit d'être nourri par le maître, d'avoir un toit et des vêtements.
Les esclaves avaient des obligations. Par exemple, travailler à l'heure fixe, 10 heures par jour et uniquement pour leur maître. Parmi les punitions, on retrouve les mentions de coups de fouet, de torture ou encore du collier de fer. On pouvait également couper des membres aux esclaves en guise de châtiment.
Le Code Noir décrit ces hommes et ces femmes comme du bétail ou bien appartenant à leur maître, ou encore comme un outil de travail au même titre qu'une charrette. Nous avons aussi découvert un document inédit, unique et fort. Le prochain groupe va vous en parler.
Bonjour, nous sommes Russell, Iliès, Raphaël et Slava. Avec notre professeur d'histoire, Monsieur Desjardins, on a étudié l'acte d'affranchissement d'un esclave.
Mais pas n'importe lequel. Il avait le numéro de matricule 2177. Il vivait au Carbet, en Martinique. Il s'appelait Jean Gratien. Il était l'arrière-arrière-arrière-grand-père de notre professeur.
Il a été affranchi, c'est-à-dire qu'il est devenu un homme libre à 61 ans en 1848, année de l'abolition de l'esclavage en France. Jean Gratien est né en 1787 et il est mort en 1859. Il était un esclave depuis sa naissance.
Il a donc été affranchi à l'âge de 61 ans. En 1794, l'esclavage est aboli en France pendant 8 ans. En 1802, il est réinstauré par Napoléon Bonaparte. On suppose alors que Jean Gratien a été affranchi une première fois en 1794 à l'âge de 7 ans, puis réduit à l'esclavage en 1802.
1848 est une date dont on parle peu, que peu de gens connaissent. Pourtant, elle est importante pour l'histoire de notre pays. Il y a donc 177 ans, on a mis fin à la traite négrière, à la traite d'êtres humains. Chaque année en France, on commémore cela le 10 mai.
Canal B, Radio Curieuse.
Pause musicale sur Canal B dans l'émission de la classe de 4e A du collège Sainte-Joséphine Bakita de Rennes. Vous avez entendu la version de Judy Collins en début d'émission. Cette fois, c'est Aretha Franklin qui chante Amazing Grace.
Oh.
It was. ni censé. It's gonna lead me at
Amazing Grace par Aretha Franklin sur Canal B. Retour au collège Sainte-Joséphine Bakita de Rennes avec la classe de 4e A.
Bonjour, vous êtes toujours sur Canal B.
Dans l'émission de la classe de 4e A du collège Sainte-Bakita.
À présent, nous allons vous parler de la justice et de l'injustice.
Nous avons étudié l'œuvre Claude Gueux de Victor Hugo.
Nous avons assisté à une audience au tribunal judiciaire de Rennes.
Nous avons rencontré des avocates qui nous ont accompagnés.
Et un photographe aussi.
Allez, on y va.
Bonjour, je suis Léonie. Je vais vous présenter le photographe qu'on a rencontré. Le 11 mars, un photographe est venu dans notre classe. Il s'appelle Paul Wagensel. Il a un diplôme en philosophie. Il a fait les sciences de l'information et de la communication. Il est aussi coordinateur de l'association Photo à l'Ouest. Et du festival Images publiques, il a écrit des livres « Penser les regards photographiques » et « Une histoire photographique » à l'édition Lamacan. Jacques Hivernaud, photographe, est encore né en 1958 à Saint-Malo. Sa carrière de photographe débute en 1980 en tant que correspondant dans la presse à l'Ouest de France. Il produit et réalise des expositions commandée par les institutions publiques, Ville Médiathèque, il réalise une grande exposition sur le thème de l'esclavage et l'immigration.
Bonjour, nous sommes Ashenaz, Clara, Ethan et Bilal.
Dans le cadre du projet réalisé en classe, nous allons vous parler d'un grand homme de la littérature française, mais aussi un grand homme politique, Victor Hugo.
Né en 1802, il a commencé à écrire à 19 ans, après avoir publié ses premiers poèmes sous le roi Louis XVIII, sous la Restauration.
En 1829, il publie Les Orientales, en 1932, Les Feuilles d'automne, et en 1835, Les Chants du Crépuscule, trois recueils de poésie.
Enfin, après trois laborieuses tentatives, il entre à l'Académie française en 1841.
La sortie de sa première pièce, Hernani, marque la révolution du théâtre français.
Dans sa pièce, Le Châtiment, il dénonce les coups d'État de Napoléon III et parle d'injustice.
Il dénonce souvent l'injustice, notamment dans Les Misérables.
On va maintenant s'intéresser à Victor Hugo, le grand homme politique.
Car il avait des opinions très fortes et il n'avait pas peur de les défendre.
Clara vient d'en parler, l'un des moments forts de son engagement est son opposition à Napoléon III vers 1851. Il pensait que Napoléon III avait trahi la République. Il a donc critiqué dans ses livres et ses discours ce qui lui a valu de devoir fuir, de quitter la France pendant 20 ans.
Mais même loin de la France, Victor Hugo n'a jamais cessé de se battre. Pendant son exil, de 1851 à 1870, il a continué à écrire et à dénoncer les injustices. Il est devenu un symbole de la résistance contre l'injustice. Quand il est revenu en France, les gens l'ont accueilli comme un héros.
Victor Hugo a aussi été député et sénateur. Il voulait améliorer des choses importantes, ainsi il était contre la peine de mort. Il voulait que tous les enfants puissent aller à l'école et il voulait aider les plus pauvres. Pour lui, c'était très important que chacun soit traité avec justice.
Messieurs, je ne suis pas de ceux qui croient que l'on peut supprimer la souffrance. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut détruire la misère. Je ne dis pas diminuer, je ne dis pas amoindrir, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre, une maladie du corps humain. La misère peut donc disparaître comme la lèpre a disparu. Oui, oui, détruire la misère est possible. Et nous devons y songer sans cesse, gouvernant comme législateur. Car en pareille matière, tant que le possible n'a pas été fait, le devoir n'est pas rempli. Non, vous n'avez rien fait tant qu'il y a, au-dessous de nous, une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont vieux et qui ont travaillé peuvent être sans asile. Vous n'avez rien fait tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Vous n'avez rien fait. Rien fait, messieurs. Aussi, messieurs, je ne peux vous laisser affirmer que dans les temps de troubles comme ceux que nous vivons, la force est tout. Et que toute mesure sociale serait du socialisme déguisé. S'il vous plaît, silence ! Une société de progrès, messieurs, ne peut reposer sur la souffrance publique, sur un système d'aumône qui dégrade celui qui la reçoit. Il faut remplacer l'aumône par l'assistance qui fortifie celui qui en bénéficie. Et n'oublions pas, messieurs, que ces avancées sociales font partie du programme sur lequel a été élu le président de la République.
Discours de Victor Hugo sur la misère du peuple, prononcé à l'Assemblée nationale le 9 juillet 1849. Extrait de la série Victor Hugo, l'ennemi d'État, de Jean-Marc Moutou.
L'engagement de Victor Hugo continue aujourd'hui encore d'inspirer ceux et celles qui se battent pour un monde plus juste. C'était un homme courageux et un grand défenseur des droits de l'homme. Il décède en 1885, mais ses idées continuent d'animer les esprits.
Parmi les livres qu'il a écrits, il y a Claude Gueux. Nous l'avons étudié en cours de français. Halil, Kenan et Erdikan vont vous en parler.
Bonjour, nous sommes Halil, Kenan et Erdikan. En cours de français avec Madame Elaoudi, nous avons donc étudié l'œuvre de Victor Hugo, Claude Gueux. Elle est beaucoup moins connue que « Le dernier jour d'un condamné ». Pourtant, il y parle aussi de pauvreté, d'injustice et d'abus de pouvoir. On apprend notamment que Victor Hugo était contre la peine de mort, un siècle avant son abolition. Alors que raconte ce livre, écrit en 1834 ? une histoire inspirée de faits réels, celle de Claude Gueux.
Claude Gueux est un homme qui a des difficultés à subvenir aux besoins de son foyer, alors il vola du pain et de quoi faire du feu pour 3 jours. Il fut arrêté et emmené à la prison de Clairvaux. Là-bas, il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Chaque jour, il devait travailler dans l'atelier de la prison pour avoir sa ration quotidienne, mais elle était insuffisante. Un jour, il rencontra un certain Albin qui a partagé ses rations avec lui pour qu'il survive. Je cite les propos tenus par le personnage devant ses camarades détenus. « Je l'ai aimé d'abord parce qu'il m'a nourri, ensuite parce qu'il m'a aimé. » Le directeur de la prison les a séparés.
Claude Gueux lui a alors donné un délai pour lui rendre son ami. Et pour ça, il a été jeté au cachot. À sa sortie d'isolement, il a fini par tuer le directeur, puis a tenté de se suicider. Il subira un procès partiel. Il sera condamné à mort et exécuté sur la place du marché de Troyes. L'œuvre écrite par Victor Hugo dénonce l'injustice et les abus de pouvoir, notamment dans les prisons. Avec ce livre, Victor Hugo a dénoncé la peine de mort, abolie 100 ans plus tard.
La parole est à monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Nouvelle pause musicale sur Canal B, on écoute Nina Simone.
In my heart, remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me, then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. I wish I could do all the things that I can do, though I'm way overdue. I'd be starting anew. Well, I wish I could like a bird in the sky. How sweet it would be if by my heart I could fly. I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd sing, cause I know, yeah. And I'd sing, cause I know, yeah. Then I'd sing,
Nos camarades vont maintenant vous parler d'injustice.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Hamza et Hassan et aujourd'hui nous allons vous parler de l'injustice.
Selon nous, l'injustice consiste à ne pas traiter une personne à sa juste valeur. Par exemple, le fait qu'une femme gagne moins qu'un homme pour le même travail est une forme d'injustice.
La discrimination à partir des différences de couleur de peau est une autre forme d'injustice. Mais plus précisément, l'injustice est le contraire du principe de la justice.
Lors de notre sortie au tribunal correctionnel de Rennes, en mars dernier, un homme a été condamné pour des faits d'agression sexuelle à 1 an de prison ferme. Nous avons jugé que sa peine était trop légère et pas à la hauteur de la gravité de sa faute.
Ça a provoqué en nous un sentiment d'injustice.
L'injustice est une chose ignoble qui remonte à la naissance de l'humanité et contre laquelle il faut continuer de se battre. Jean de La Fontaine dit à travers la fable qu'il a écrite en 1842, les animaux malades de la peste.
Selon que vous seriez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Cela signifie qu'à l'époque de La Fontaine et plus tard de Victor Hugo, les jugements de cour étaient inégaux selon la position sociale de l'accusé. Le système judiciaire favorisait ou défavorisait l'accusé selon son niveau social. Ça s'appelle l'injustice.
Cruauté et injustice. Intolérance et oppression.
De terribles injustices.
Avoue que tout ça est bourré d'injustice.
Je ne pouvais pas admettre tant d'injustice.
Le moyen de combattre l'injustice.
Parmi toutes les injustices qui existent dans le monde, celles qui frappent les enfants sont les plus injustes, les plus ignobles, les plus odieuses. Le monde n'est pas juste et ne le sera jamais.
Mais il n'y a rien qui décourage autant les enfants que l'injustice.
Mais pour donner bonne conscience, elle déteste l'injustice.
Animé du courroux qu'allume l'injustice.
Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum, nous sommes Ali
et Mehmet.
Nous avons choisi de vous raconter la rencontre de notre classe avec les avocates Pascaline Barré et Pauline Coirier. L'une est pénaliste, c'est-à-dire qu'elle exerce le droit pénal. L'autre exerce en droit administratif.
Nous avons aussi eu la chance de rencontrer une étudiante fraîchement diplômée en droit, Khadisatou Ndiaye, qui nous a expliqué toutes les branches du droit français. Les branches les plus courantes sont celles du droit pénal et du droit administratif. Un avocat se doit de respecter la vie privée de chaque client, cela doit rester professionnel. Un avocat doit faire en sorte qu'il n'y ait pas d'injustice envers ses clients. Et il a pour mission de faire entendre la parole de son client et de protéger ses droits. Il aide à garantir que les personnes qui ont été victimes d'injustice obtiennent justice.
Ensuite, il peut aider à s'assurer que les personnes accusées reçoivent un traitement juste devant les tribunaux. D'ailleurs, en parlant des tribunaux, nous avons eu la chance de nous rendre dans l'un d'eux.
Bonjour, nous sommes Mamadou et Saïd. En effet, avec la classe de 4e A, nous avons passé une demi-journée de mars dans un tribunal correctionnel de Rennes. Là-bas, on juge les délits. Pour les crimes, c'est à la cour d'assises.
On a assisté à plusieurs audiences. Il y a eu un cas d'agression sexuelle, une affaire de conflit avec les forces de l'ordre et on a aussi vu des agents de la Star et de la SNCF prêter serment auprès de la juge.
Cette audience nous a marqué car on pensait que lorsqu'on assiste à une audience, il y a systématiquement un jugement et une peine en jeu. Et ce n'était pas le cas ici. Le fait d'être dans la salle d'audience nous a permis de nous sentir concernés et de nous positionner par rapport à ce qu'on trouvait juste et injuste.
On a trouvé juste que l'homme accusé d'agression sexuelle soit arrêté car il a commis un grave délit. On a trouvé injuste le fait que l'homme qui a eu des conflits avec les policiers soit arrêté car toutes les preuves montrent son innocence.
En fait, on se demande encore si le traitement de cette affaire a été juste ou pas. Comme quoi, rendre la justice n'est pas simple.
C'est tout pour aujourd'hui.
L'émission des 4e A du collège Sainte-Joséphine Bakita est à présent terminée.
Nous remercions nos professeurs Madame El Aoudi, Monsieur Desjardins, Monsieur Abdelaïssé et Madame Moi.
Nous remercions aussi les intervenants Maître Barré et Maître Coirier,
Paul Van Cassel et Khadisatou Ndiaye.
Merci à vous de nous avoir écoutés.
Cordialement.
Et merci au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et plus particulièrement à Michael Marangoni, grâce auquel ce projet a pu voir le jour. On va se quitter en musique avec John Baez sur Canal B, We Shall Overcome.
rabbi sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. Songs of freedom, songs of freedom.
Told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. And 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 now you do what they told ya. Those who died are justified for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. You're justified. Those who died for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. Those who died are justified for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. You're justified. Those who died for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Now you do what they told ya. 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 Now you're under control. Now you do what they told ya. Now you're under control. Now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya.
L'adolescence, un âge difficile.
Assez fréquent chez les préadolescents. Elle en a tous les symptômes. Hyperactivité, saut d'humeur...
Écoute, je suis occupée à profiter de mon adolescence, alors fiche-moi la paix et fais la même chose.
Bah, oui, mais parfois on change à l'adolescence.
Les ados, ça se lève pas tôt, normalement.
Il y a tout du monde merveilleux des adolescentes.
C'est un miracle. Un adolescent qui dit non à la drogue et dit oui à l'instruction, c'est un miracle.
So, may we start?
Et maintenant, les ateliers radiophoniques des Canal B.